conférence. Sur Radio Certitude, c'est la diffusion de l'enregistrement d'une conférence.
Nous allons écouter à présent un partage du pasteur Pierre Truchel sur la guérison divine.
Tout le continent africain, hein, et on attend pour améliorer. C'est donc avec le studio de Patrick Vauclair, là, de Belfort, et toute une équipe de pasteurs et d'autres qui sont... Alors, vous avez une feuille d'information avec, c'est sur Christian Chanel, sur le satellite Astra, mais si vous avez aussi le câble, vous regardez voir, vous pouvez aussi le prendre. Ça dépend selon ce que vous êtes enregistré. Voilà, je vous disais simplement ceci, de prier pour cela, pour l'utiliser comme évangélisation. Je voudrais peut-être simplement pour voir si vous êtes bien réveillé, que vous disiez un petit peu à votre voisin de droite et de gauche, mon frère, ma soeur, t'es le plume, le meilleur voisin, la meilleure voisine que j'ai cet après-midi à côté de moi. Dites-le lui un petit peu. Et vous pouvez lui dire, c'est vrai, je me trompe pas. En réfléchissant un petit peu aux réunions, j'avais pensé à autre chose, mais hier soir et puis ce matin, là, je pense qu'il faut qu'on parle de la guérison. Je crois que peut-être, je ne pense pas peut-être, mais je crois que nous aurons un temps de guérison tout à l'heure. Et je voudrais proposer que cet après-midi, en deux temps, le premier temps est un temps d'enseignement, un petit peu pour construire profondément votre foi, non pas sur l'orateur ou les événements, sur ce beau temps de louange que nous avons eu, ou sur vos sentiments, vos émotions, mais vraiment sur l'enseignement de la parole de Dieu. Ça... La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est important que votre foi soit toujours construite sur les Écritures, rendue vivante par l'Esprit de Dieu, et cette foi-là qui nous permet de saisir tout à l'heure la guérison dont nous avons besoin. Je ne sais pas trop pourquoi, mais je crois que Dieu tout à l'heure va faire des choses. Il y a donc, premier temps, là, je vais parler de la guérison, ce que vous connaissez, mais je veux le prendre d'un autre aspect pour être quand même pas trop rabâchage, faire du rabâchage ou des choses que vous connaissez déjà. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, je prendrai un temps pratique où comment vivre pratiquement un miracle. Comment vivre un miracle d'après un exemple simple des Écritures, comment tout à l'heure enclencher l'étincelle qui fait que là où tu es, tu peux être guéri sur place. Là où tu es, tu peux être touché, mais là aussi, dans ton besoin, dans ta vie, tu peux faire bouger les choses de Dieu, faire bouger le royaume de Dieu. Vous le savez, je le résume pour mémoire, dans la parole de Dieu, la Bible dit, la parole de Dieu nous dit que le monde dans lequel nous vivons est couché sous la puissance du malin. Jésus en parlera du diable, parlera de ce prince, de ce monde de ténèbres. Très clair, les souffrances, tout ce que vous avez, tout ce que nous rencontrons ont pour origine à la fois le péché, la désobéissance, mais aussi le malin. Mais la Bible dit, elle va beaucoup plus loin, elle ne parle pas seulement d'êtres humains ou d'êtres ou de nature de péché en action, elle parle d'une malédiction. Elle parle d'une malédiction qui repose sur la planète, qui repose sur l'être humain, qui repose sur nos vies et elle ne va même plus loin, elle parle de deux grandes formes de malédiction qui sont les causes, les sources de toutes les souffrances qui existent sur notre planète. La première forme de malédiction avec toutes ses conséquences, c'est celle que, malheureusement, suite à la désobéissance d'Adam et d'Ève, Dieu a prononcée au Jardin d'Éden. Vous savez, n'insiste pas, il y a la... À cause de la désobéissance d'Adam et d'Ève, inspirée par le malin, inspirée par le serpent, eh bien, il y a là une malédiction. À son rôle unique de femme qui va se divisant en deux grandes parties, elle va enfanter avec souffrance et peine, elle sera soumise à l'autorité de son mari, dépendra de lui pour l'accomplissement de son désir instinctif d'avoir des enfants, elle sera soumise à l'autorité de son mari donc, et ensuite une deuxième forme de malédiction dans, qui lui est semblable, mais elle maintenant qui va toucher l'homme, qui va toucher le mari, la malédiction prononcée sur Adam se rapporte premièrement à la tâche que Dieu lui avait confiée de gérer, de cultiver, de garder le jardin. Et cette malédiction va le toucher en plein. Il va se partager en trois branches. Le sol qu'il devait cultiver va provoquer la sueur de l'homme, car cela va devenir dur de travailler, pénible de travailler. Ce n'est pas le travail qui est une malédiction, ce sont les conditions du travail qui sont devenues une malédiction. Le travail est nécessaire parce que le travail permet de développer votre potentiel, vos charismes, vos dons. Quand vous ne travaillez plus, vous ne vous développez plus. C'est pour cette raison que le chômage est une malédiction. Donc le sol va provoquer la sueur de l'homme car il va devenir dur à travailler. Le changement même du sol va produire une végétation différente, vous savez qu'à partir de ce moment-là, va sortir pour la première fois une semence inutile, les ronces, c'est inutile, etc. Et puis l'homme lui-même va être sujet à la corruption et à la mort, cette mort aussi, tu es poussière, tu retourneras à la poussière, et Ève elle-même va être incorporée là-dedans. La terre elle-même va être touchée car Adama, issu de la terre, est lié à son environnement. Et enfin, par surcroît, une malédiction particulière fut dirigée contre le serpent qui, dès lors, se distingua de tous les animaux de la création. Je pense que tout le monde est clair sur cette première malédiction. Mais il y a, la Bible nous parle aussi d'une deuxième source, d'une deuxième cause, d'une deuxième porte d'entrée, d'une deuxième raison profonde générale de malédiction. Celle-là, elle est ultérieure, elle date, ou elle est devenue concrète par la loi que Dieu va donner à Moïse dans au mont Sinaï, où, dira plus tard l'apôtre Paul, la loi va imputer le péché qui était diffus, va devenir très concret, chacun va être responsabilisé personnellement du péché qui est en lui ou qu'il pratique parfois inconsciemment par la loi. Et cette loi va donc être donnée à Moïse dans le mont Sinaï. Et dans Deutéronome 28:15, Dieu dit, mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Et là, vous avez, je n'insiste pas, vous avez, je résume, hein, je survole pour laisser plus de temps, vous avez donc toutes les conséquences, l'humiliation, la stérilité, l'absence de fruits, les maladies mentales, physiques, l'échec, la vie ratée, la pauvreté, la défaite, l'oppression, le foyer brisé, l'insuffisance financière continuelle, les suicides constants, les maladies héréditaires, chroniques, etc. Vous retrouvez tout cela dans le livre du Deutéronome. Par contre, la bénédiction de l'obéissance, les bénédictions qui allaient venir par l'obéissance à la loi sont l'inverse, c'est-à-dire élévation, santé, reproduction, prospérité, victoire, faveur de Dieu, l'Éternel fera de toi la tête et non pas la queue. Voilà, en gros, résumé les deux sources de malédiction ou les deux causes profondes de malédiction qui sont les raisons pour lesquelles vous, peut-être cet après-midi, qui avez des luttes dans votre foyer, dans votre famille, dans votre travail, dans votre santé, dans votre corps, eh bien, pour lesquelles raisons vous pouvez être touché. Vous pouvez être touché parce qu'il y a malédiction quelque part, parce qu'il n'y a pas forcément la vôtre, mais l'héritage que vous avez reçu de ce qui existe dans le monde. Je fais encore rapidement les plus importantes causes de malédiction qu'on trouve mises en évidence par la loi. Reconnaître ou adorer de faux dieux. Combien de personnes, avant leur conversion, sont allées voir des cartes anciennes, gris-gris, fétiches, porte-bonheur, amulette et tout ce que vous voulez, toutes les superstitions possibles, toutes les pratiques occultes, même pour, soi-disant, pour magie blanche ou positive, pour faire du bien, etc., eh bien, ce sont des malédictions, ce sont des portes de malédiction. Et malheureusement, il faut le dire que parfois, même en devenant chrétien, si ces choses n'ont pas été réglées, eh bien, c'est un fil à la patte qui explique pourquoi parfois nous n'expérimentons pas la guérison. Il y a toute l'implication dans l'occultisme, la magie, la sorcellerie, le manque de respect aux parents. Je vous montre rapidement tout ce que la Bible montre. Le manque de respect aux parents, afin que tu prolonges tes jours et que tu aies jours heureux sur la terre. Comment il va y avoir des jeunes chrétiens qui sont légers avec leurs parents, on a une civilisation légère plus tard, quand ils en bavent, ils comprennent pas, ils disent que Dieu ne répond pas. Mais tu sais, ils sont sous une malédiction. Ce sont des choses réelles, ce ne sont pas des choses comme ça, histoire de faire peur, ce sont des choses réelles. Nous avons tellement relativisé les choses de Dieu qu'on pense que Dieu passe l'éponge par-dessus tout. J'aimerais dire, on n'a jamais autant parlé de la grâce, mais je crois qu'il est important de rééquilibrer en parlant de la crainte de Dieu. Je peux vous garantir, dans mon expérience personnelle, Dieu ne laisse rien passer. Il faut bien le savoir, pour Jésus dira même, les cheveux de notre tête sont comptés. Extrêmement important de comprendre que quand il y a des blocages dans nos vies, il faut savoir que Dieu ne passe pas l'éponge tant que la lumière n'est pas mise dessus. Important de comprendre que le sang de Jésus n'a de l'efficacité que dans la mesure où je marche dans la lumière. S'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'efficacité du sang de Jésus. C'est extrêmement important de ne pas devenir des superstitieux qui parlent du sang, qui parlent de la grâce, n'importe comment. Il n'y a aucune puissance dans le sang de Jésus s'il n'y a pas la lumière correspondante. C'est pour cette raison que la Bible dit, si nous marchons dans la lumière, le sang de Jésus nous purifie et nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. N'oubliez jamais cela. Le grand problème, le grand besoin du peuple de Dieu aujourd'hui, c'est de nous avoir le courage de vivre dans la lumière. On s'excuse tellement facilement, on passe l'éponge tellement facilement, on a réduit Dieu à un tel papa gâteau tellement facilement qu'on n'a jamais eu autant de problèmes que maintenant. Et moi, je crois que la visitation de Dieu, c'est les miracles, les guérisons, les prodiges. C'est pas seulement se sentir bien parce qu'on a une visitation de Dieu. Il nous faut des signes, des prodiges, des miracles, des guérisons, des aveugles, des sourds, des paralysés qui marchent, des démons qui sont chassés, des cancers guéris, des sidaïens qui sont guéris. Il nous faut le vrai évangile dans toute la puissance d'en haut parce que le monde a désespérément besoin de le voir. Vous savez, on est confronté comme au temps de Moïse, quand il est venu chez Pharaon, il a dit « Laisse aller mon peuple ». Pharaon dit « Mais qui c'est l'Éternel pour que je lui obéisse ?» Alors Moïse a jeté sa verge et les deux sorciers, les deux magiciens égyptiens, Jambres et comment il s'appelait lui l'autre, eh bien ont fait les mêmes miracles que Moïse. Le diable, les deux magiciens ont pu changer la verge en bois. Ils en ont fait, comme Moïse, un serpent vivant. Si vous pensez que le diable n'a pas de pouvoir, vous vous trompez jusqu'au fond de votre compréhension des choses. Parce qu'il faut savoir qu'il y a la puissance démoniaque qui est extrêmement forte. Et de plus en plus, nous voulons le réveil, nous voulons la visitation de Dieu, nous voulons avoir des jours forts, mais nous allons de plus en plus vers cette confrontation. Nous disons que la puissance de Dieu est plus grande, mais il faut que tu le démontres par la vie. Et il est important de comprendre que dans cette confrontation vers laquelle nous sommes en route, confrontation de royaume, eh bien, c'est vrai que le nom de Jésus est au-dessus de tout temps, nous n'avons pas à avoir peur, mais nous avons à être sérieux. Nous avons à être sérieux parce qu'à un moment donné, la confrontation va devenir tellement grande qu'à un moment donné, toutes ces puissances de l'enfer seront obligées de dire « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, et il n'y en a pas d'autre. » Alors, les faux dieux, le manque de respect aux parents, toutes les formes d'oppression, d'injustice, celles dirigées contre les faibles, les sans-défense, l'avortement, etc., les actes sexuels illicites ou contre-nature, puis je me permets de dire que parfois dans des couples chrétiens, on ne pratique pas l'adultère, mais il y a parfois l'apôtre Paul dit que la couche conjugale soit exempte de toute souillure. On ne fait pas n'importe quoi, on n'a pas n'importe quoi comme relation sexuelle avec son époux ou avec son épouse. Il y a des actes sexuels, même dans le cadre du mariage, qui peuvent ouvrir la porte à un démon et qui peuvent ouvrir la porte à une malédiction. Que votre couche conjugale soit exempte de toute souillure. C'est extrêmement important d'arriver de chasser des démons, excusez-moi, mais de personnes chrétiennes, tout simplement parce qu'on pratiquait la sodomie dans le couple. Il y a des choses qui sont inadmissibles parce qu'elles ouvrent la porte à des démons. Que ta couche conjugale soit exempte de souillure. Alors, les actes sexuels illicites ou contre nature, l'antisémitisme, le légalisme, la marche charnelle, l'apostasie, le vol, le parjure. Quand on voit le nombre de personnes et de chrétiens qui mentent, ça devient dangereux. Le vol ou le parjure, le fait de retenir plutôt que de donner à Dieu l'argent ou d'autres ressources naturelles qui lui reviennent, dîmes, offrandes, etc. Des paroles prononcées par des personnes qui possèdent une autorité par leur position, par exemple un père qui dit à son enfant « t'es un cancre, tu feras jamais rien de bon » par sa parole d'autorité, crée une malédiction sur cet enfant. Alors là, ils viennent, ces enfants plus tard viennent à l'église convertis, ce sont des gars liés, ce sont des pères de famille handicapés, ce sont des chrétiens qui n'arrivent pas à se libérer, ils sont liés par des paroles de leur père ou des paroles de leur mère, de leur enfant. Ils sont nés de nouveau, ils ne sont pas libres. Et donc, des paroles prononcées par des personnes d'autorité, père, mère, mari, ma mère faisait 100 fois mieux la cuisine que toi. N'insiste pas, vous connaissez ce genre de trucs dans le couple, hein. L'épouse, l'enseignant, espèce de cancre, etc. Le prêtre, le pasteur, il y a toutes sortes de gens qui ont pu nous marquer et qui ont pu tisser sur notre vie inconsciente des filets de malédiction. Des malédictions imposées, je m'en sortirai jamais, il y en a qui je m'en sortirai jamais, je peux plus, j'y arriverai pas, etc. Des paroles par lesquelles on s'est lié, j'ai pas le temps d'insister, des vœux ou des serments qui lient à des gens, à des associations impies, des pactes secrets, etc. Des malédictions qui viennent de serviteurs de Satan. Là, on pourrait vous donner des témoignages. Il y a des gens qui infiltrent nos églises. Plus votre église est grande, plus il y a des infiltrations. Ça, c'est quelque chose que je m'imaginais impossible pendant longtemps. Je disais, mais le Seigneur va révéler. Le Seigneur, si quelqu'un rentre dans l'église, le Seigneur va révéler. Quand vous êtes une trentaine, quarantaine, cinquantaine, ça va. Quand vous êtes plusieurs centaines, ça commence à être plus difficile. Et quand vous avez dans ces plusieurs centaines des chrétiens plein de problèmes, alors ça devient carrément impossible à discerner entre tout ce monde qui est de Satan ou qui est en train de devenir tout simplement un instrument de Satan inconsciemment par ses péchés. Et nous devons comprendre qu'il y a tout un travail parfois d'infiltration qui se fait pour bloquer, parfois bloquer la vie d'une église, bloquer, empêcher l'onction de guérison de se manifester au sein d'un auditoire. Il y a également des paroles psychiques dirigées contre autrui, des médisances, des blasphèmes, etc. Eh bien, il y a même des gens qui prient parfois contre d'autres, hein, des prières psychiques qui accusent ou qui cherchent à dominer d'autres personnes. Il y a encore toutes sortes de malédictions énumérées dans la Bible, mais j'ai voulu faire un rapide survol, parce qu'avant de toucher la guérison, tout à l'heure, il faudrait peut-être enlever, si c'est nécessaire, quelqu'un, s'il sent qu'il faut enlever un caillou, il faut le faire maintenant. On n'a pas le temps tout à l'heure. Et la parole de Dieu nous montre, dans l'Ancien Testament, la sévérité de Dieu. Dans le Nouveau Testament, elle nous parle de la bonté de Dieu. Mais il faut bien que vous ayez une compréhension équilibrée de la personne de Dieu. L'apôtre Paul, dans Romains 11, dit « Considérez la sévérité et la bonté de Dieu ». Vous ne pouvez pas seulement, il y en a qui n'aiment que la bonté de Dieu, il y en a qui parlent que de la sévérité de Dieu. Non, il y a les deux. Il y a les deux, il y a la bonté de Dieu, mais aussi la sévérité de Dieu. Et nous devons avoir la crainte de son nom. Dans le livre de l'Apocalypse, devant le trône de Dieu, il y a tous ceux qui craignent ton nom, est-il écrit. Il n'y a pas seulement ceux qui sont confiants en ta grâce, mais ceux qui craignent ton nom. Et c'est extrêmement important que parfois l'amour de Dieu ne suffira pas pour vous empêcher de tomber. C'est la crainte de son nom qui vous empêchera de pécher. Et il est important de comprendre que dans la relation avec Dieu, dans ma vie de jeune ou de moins jeune, comme dans ma vie d'adulte, à un moment donné, je peux avoir des tentations, je peux avoir des luttes. S'il y en a un ou une d'entre vous qui dit qu'il n'a pas de genre de tentation, c'est un menteur, c'est très simple. Nous sommes environnés dans un monde de péché. Et si à un moment donné, nous n'avons pas la crainte de Dieu, nous tomberons si la situation est favorable. Nous devons donc comprendre qu'il y a à la fois l'amour de Dieu, mais aussi la crainte de Dieu. Parce que Dieu ne laisse pas le péché impuni. Même s'il faut attendre 20 ans, 30 ans, ton péché te retrouvera. C'est extrêmement important d'apprendre ces choses-là, parce que d'accepter ces pensées-là, parce que nous n'aimons pas dans une société laxiste, excusez-moi, où finalement tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, où avant on disait que quelqu'un était coupable, maintenant on dit qu'il est malade. Avant il fallait qu'il renonce à son péché, maintenant il faut qu'il se soigne. Il y a toute une mentalité complètement changée, on a déculpabilisé la responsabilité de l'être humain, et il faut absolument revenir à cette profonde conviction du péché qui, elle seule, me donne ensuite, par la grâce de Dieu dont j'ai besoin, c'est par la reconnaissance, par ma conviction de péché, par ma repentance, et ensuite me jetant dans les bras de celui qui me fait grâce, puisque je me repens, alors j'ai droit à toute la bénédiction de Dieu, j'ai droit à tout l'attachement de Dieu. Alors, il y a une seule issue. Vous savez, le salaire du péché, c'est la mort, malédiction du jardin d'Éden, malédiction de la loi. Eh bien, Dieu a réuni tout cela dans un jugement qui est le jugement de Jésus à la croix. Là aussi, en Jésus-Christ, à la croix, Jésus, dans sa personne, va porter les jugements de ces deux formes de malédiction, la malédiction d'Adam et d'Ève, la malédiction de la croix et la malédiction de la loi. Jésus va être fait malédiction. Il va porter la malédiction pour que chacun d'entre nous, nous puissions vivre de sa bénédiction. Alors, y arriver, j'ai rapidement situé, si vous voulez, en gros, maintenant, je voudrais aller plus loin, à fur et à mesure, je vais avancer. Et dans le Nouveau Testament, vous avez remarqué, il y a deux généalogies de Jésus. La première généalogie, celle de Matthieu, dans Matthieu, remonte à Abraham. Elle s'arrête à Abraham, et Jésus, par là, est identifié à Abraham et à sa descendance, c'est-à-dire la nation d'Israël qui était sous la loi. Galates 4, au verset 4, dit que Jésus est né sous la loi afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi. Dans l'évangile de Luc, par contre, sa généalogie, la généalogie de Jésus remonte à Adam. Remonte à Adam, il est identifié là non plus seulement à Abraham et à sa descendance, c'est-à-dire à la race juive, mais maintenant, au travers de la généalogie de Luc, il est identifié à Adam lui-même, donc à toute la race humaine, au-delà de l'existence même d'Abraham. Il est Adama, il est le fils de l'homme, il s'appelle l'homme, le fils de l'homme, et aussi le fils d'Adam. La Bible appelle Jésus le dernier Adam, le second homme. Et alors, je conclue, en tant que semence ou postérité d'Abraham, né sous la loi, Jésus prit sur lui les malédictions venant de la transgression de la loi. En tant que dernier Adam, descendance d'Adam, semence d'Adam, il prend sur lui les malédictions prononcées sur Adam et Ève par leur désobéissance dans le jardin d'Éden. Lorsqu'on présente Jésus, vous savez, vous avez des typologies dans la Bible, on ne fait jamais très attention, mais quand on présente Jésus, quand Pilate présente Jésus avec son vêtement de pourpre, sa couronne d'épines, rappelez-vous, l'épine des ronces était le symbole de la malédiction qui avait frappé même la terre. Adama, c'était justement la terre dont Adam était sorti. Eh bien, il y avait là, sans que Pilate s'en rende compte, il y avait là tout un symbolisme d'identification. Les Écritures révèlent que la pleine rédemption de toute la malédiction, de toutes ces malédictions, se fera par phases successives. C'est là maintenant que j'aimerais toucher le vif du sujet. Souvent, il y a une confusion chez les chrétiens. Il y a deux étapes de délivrance, il y a deux étapes de guérison. Il y a deux périodes d'appropriation du salut en Jésus-Christ en ce qui concerne la malédiction. La rédemption, la libération, le rachat, la délivrance, la guérison de la malédiction de la loi est offerte déjà maintenant, pour notre époque actuelle, pour ceux qui se l'approprient par la foi. On va y revenir dans Galates 3, 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Dans Genèse 24, la Bible dit que Dieu bénit Abraham en toutes choses. Il n'est pas dit seulement que Dieu bénit Abraham, mais il bénit Abraham en toutes choses. Tout veut dire tous les trois domaines de la personnalité. Domaine matériel, domaine émotionnel, domaine spirituel. Domaine du corps, domaine de l'âme, domaine de l'esprit, domaine de la famille, domaine de la situation matérielle, domaine de la réussite spirituelle. Dieu bénit Abraham en toutes choses, dans tous les domaines de sa vie, et nous avons reçu le Saint-Esprit, l'Esprit qui avait été promis, pour nous conduire, justement, jour après jour, dans la réalité de cette rédemption que la croix de Jésus nous a acquise pour que nous partagions et recevions par la foi les bénédictions d'Abraham. Ça veut dire nous sommes, la parole de Dieu est claire, vous et moi en tant que chrétiens en Jésus-Christ, nous sommes les héritiers d'Abraham par la foi. Et cela est important de le comprendre. Alors, il y a dans la pensée de Dieu, il y a dans la Bible, il y a les promesses. Je souhaite, mon frère, ma sœur, que tu prospères à tous égards. Dieu bénit Abraham en toutes choses. Dieu veut bénir la pensée générale, le plan général, l'œuvre générale et l'œuvre du Christ à la croix. L'œuvre de rédemption, l'œuvre de rachat, l'œuvre de libération est une œuvre de rédemption, c'est-à-dire de restauration des biens perdus, de restauration de la bénédiction, de libération de la malédiction. Mais il n'y a pas seulement libération de la malédiction, il y a communication de la bénédiction. Ça, c'est la règle générale. Maintenant, il peut y avoir une loi supérieure à cette loi générale, qui est la loi de l'appel de Dieu, que vous retrouvez dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11. Certains fermèrent la gueule des lions, éteignirent le puissant du feu, vainquirent des armées étrangères, recouvrèrent leur mari, ou leur malade par la guérison, etc. Vous avez cette prospérité réelle, biblique, mais vous en avez d'autres, sciés, torturés, lapidés, errant ça et là, ceux-là, ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Et alors là, il est facile de sortir des slogans évangéliques tout faits, qui ne correspondent pas toujours à la réalité de l'expérience de certains. Et alors là, les gens rejettent tout parce qu'on a finalement amené des slogans à l'eau de rose, et dans la réalité, il y a des souffrances parfois terribles. Alors il y a une règle générale, une vie générale de bénédiction, la bénédiction d'Abraham en Jésus-Christ, mais il y a aussi parfois une loi supérieure, de dénuement, de renoncement, de consécration, de mort, par amour pour Jésus, par l'appel de Dieu, par la consécration au ministère. Et Dieu pourra permettre que plusieurs d'entre nous réussissions à tous égards dans bien des domaines, alors que pour d'autres, parfois, comme Jésus lui-même, il dirait « le Fils de l'homme n'a même pas une pierre où reposer la tête ». L'apôtre Paul devait travailler de ses mains, tout simplement parce qu'il avait un appel au-dessus. Il y avait une loi supérieure à cette loi simple de la bénédiction. C'était la loi de l'engagement, nous allons voir. C'était la loi du ministère, où il devait apprendre à être détaché de tout, usant comme ne possédant pas, libre, non plus attaché aux choses de la terre, parce que sa vocation était tout à fait spirituelle et destinée pour l'avancement du règne de Dieu. Mais tant que Dieu, cette souveraineté de Dieu, parfois, difficile à gérer, où certains vont laisser leur vie, n'ont vont pas assister à la protection de Dieu dont ils auraient eu besoin, vont être morts, sciés, torturés, mis à mort, eh bien, alors que d'autres vont être protégés, vont être gardés. Il y a un appel parfois supérieur chez certains, c'est un appel particulier, mais qui existe. N'oubliez pas que les apôtres, la plupart des apôtres, ont été tués, et ce serait une hérésie de dire que Dieu n'était pas avec eux, et qu'ils n'avaient rien compris à la foi. Ça, c'est les petits raisonnements à l'eau de rose, non. C'est parce qu'ils avaient tout compris. Ils avaient tout donné jusqu'à leur vie qui était une semence de martyrs pour le salut de beaucoup. Donc nous devons être ouverts à ces choses, devons comprendre que ce n'est pas avec simple quelques versets bibliques, il faut bien saisir la vision générale qui est une vision de bénédiction, une vision de prospérité, une vision de restauration, la libération de la malédiction de la loi. Mais il y a des hommes, il y a des femmes qui dans l'appel de Dieu vont accepter d'aller au-delà de toutes ces choses et qui vont parfois accepter d'être privés de tout, dénués de tout, non pas parce qu'ils font vœu de pauvreté, mais tout simplement parce qu'ils sont au front, parce qu'ils sont dans une bataille, où on donne des coups et on en prend, et qui pour eux ont fait le sacrifice de leur vie pour le Seigneur et pour l'avancement de son règne. Alors, rédemption de la malédiction de la loi offerte déjà maintenant, mais la parole de Dieu est là, il peut y avoir de la confusion. La parole de Dieu nous montre que la rédemption, la libération, la restauration de la malédiction adamique n'est pas pour maintenant. C'est encore maintenant, excusez-moi, mais vous pouvez avoir la foi, super foi, ça peut arriver, tout le monde veut être comme Moïse qui à 150 ans avait un bon œil. Ça arrive, il y a des cas d'exception, mais jusqu'à présent la presbytie fait partie du vieillissement de l'œil. Hein. Vous prendrez des rides, même en utilisant les derniers points, le corps vieillit progressivement. Ce sont les lois de la malédiction du jardin d'Éden. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Et alors cette malédiction adamique eh bien la libération de cette malédiction-là ne sera manifestée qu'au retour de Jésus. Ce n'est pas pour maintenant, c'est au retour de Jésus. Philippiens 3, 20 nous dit, « Mais nous, nous sommes citoyens des cieux, nous nous attendons aussi comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Dans 1 Corinthiens 15, 51, Paul dira encore, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. » Ça, c'est à l'enlèvement, à la résurrection, au retour de Jésus. Du corruptible à l'incorruptible, du mortel à l'immortel, du déshonneur à la gloire, de la faiblesse à la puissance, du naturel psychique au spirituel. Une pleine délivrance de chacun de ces traits atteindra d'abord les croyants qui seront enlevés à la rencontre de Christ à son retour, comme les prémices de ses créatures. Pendant le millénium, le règne du Christ minimisera, sans l'abolir toutefois, la malédiction de la loi. La terre sera également touchée, mais non encore totalement transformée. La pleine abolition définitive de toute malédiction du Jardin d'Éden devra attendre que vienne un nouveau ciel, une nouvelle terre, dira 2 Pierre 3,13, et Apocalypse 22,3 nous dit, alors il n'y aura plus d'anathème, c'est-à-dire il n'y aura plus de malédiction. Donc il ne faut pas vivre avant le temps. Il ne faut pas se tromper, parce que là il y a des scandales parfois qui arrivent dans le peuple de Dieu. On espère, on témoigne, on fait n'importe quoi, puis ensuite il faut ramasser les gens à la petite cuillère, et le témoignage est lamentable, et ça fait des scandales pour la guérison divine, ça fait des scandales pour l'œuvre de Dieu, ça fait des scandales pour le plein évangile, à cause du déséquilibre théologique chez certains qui là font plante n'importe quoi, mais ils ne sont pas là ensuite pour ramasser les morceaux. Vous savez, moi j'ai vu des gens dire, mais moi je ne mourrai pas avant le retour de Jésus, ils sont morts aujourd'hui. Et il est important de... Mais c'est facile de le dire, mais il y a des enfants, il y a des jeunes qui nous voient. Et si on détruit la foi dans un jeune, quand il devient adulte, il ne veut plus entendre ces choses-là. Et c'est extrêmement important de prendre conscient, d'être conscient des conséquences que de nos légèretés parfois sur les autres. Encore si je trinque par ma propre folie, c'est déjà pas trop grave, ça me donnera une bonne leçon. Mais quand c'est les autres qui trinquent à cause de moi, là ça devient difficile. Et il est donc important de nous rappeler ces choses-là. Il y a encore, maintenant j'aimerais aller plus loin. J'ai voulu situer ça rapidement, mais je voudrais bien sûr aller plus loin. La parole de Dieu nous dit qu'il y a une libération maintenant, donc, de toutes les malédictions de la loi. La maladie, la pauvreté, l'improductivité, l'échec, l'humiliation, l'oppression, les défaites, les foyers brisés, la défaveur de Dieu. Pourquoi cela? Qu'est-ce qui c'est? Maintenant, j'aimerais que l'Esprit de Dieu nous aide maintenant à, non pas seulement à comprendre, parce que nous savons beaucoup de choses, ça ne nous aide à rien, ça ne nous aide pas à grand-chose. Il ne s'agit pas de comprendre, mais j'aimerais maintenant que, demander à l'Esprit de Dieu qu'il illumine vos yeux, qu'il vous donne la révélation maintenant, que ce qui s'est passé à la croix soit révélé, pas compris, révélé. Il faut que vos yeux spirituels, je délie au nom de Jésus, vos yeux spirituels, vos capacités de recevoir la révélation de la puissance de la croix maintenant. Qu'est-ce qu'il y a eu à la croix? Dans Hébreux 10, 14, il est écrit qu'à part une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Perfection, toujours, deux mots ensemble, qui décrivent un sacrifice qui répond à tous les besoins de l'humanité entière. Ça veut dire qu'à la croix, dans les affirmations de la Bible, à la croix, le sacrifice de Jésus répond à tous les besoins que vous pouvez avoir. C'est pour ça que Philippiens 4, 19 nous dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Je répète. « Et mon Dieu, dira Paul, pourvoira à tous vos besoins. » Mon frère, ma sœur, à tous tes besoins. Ce n'est pas écrit à tes besoins. À tous tes besoins. Dieu bénit Abraham en toutes choses. Le mot tout, T-O-U-T. Tout, plénitude, totale. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Ésaïe 53, vous le connaissez, dépeint, verset 10, dépeint le serviteur de l'Éternel dont l'âme doit être offerte en expiation à Dieu. Ésaïe dira, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Le mot iniquité en hébreu se dit avon, A-V-O-N, et yala. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Pas pour montrer que je connais l'hébreu, je ne connais rien du tout, simplement... Avon, A-V-O-N, le mot iniquité dans la mentalité hébraïque, dans le sens des Hébreux, c'est pas seulement le mal que vous avez fait, mais c'est aussi les conséquences que ce mal a engendré chez les autres ou chez vous. Et quand la Bible dit que l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous, ça veut dire qu'à la croix, le Messie a porté le mal que vous avez fait, mais il a également porté les conséquences de ce mal que vous avez fait, chez vous ou chez les autres. Ça sous-entend en plus des péchés, les conséquences des péchés commis. Par exemple, vous avez une illustration très simple dans le livre de Lévitique au chapitre 16 où le souverain sacrificateur imposait les mains au bouc pour Azaël ou le bouc émissaire. On confessait sur ce bouc tous les péchés de la nation et puis on renvoyait le bouc dans le désert et il y avait là un symbolisme très fort. C'est que tous les péchés d'Israël étaient emportés. Il n'y avait pas seulement le pardon de Dieu qui était accordé, parce qu'ils avaient eu foi dans cette expiation, mais il y avait également les péchés étaient emportés. Ils étaient emportés, ils étaient éloignés. Les conséquences du mal fait étaient également emportées. Non seulement le mal était pardonné, mais les conséquences étaient emportées, libérées, dégagées, au loin, fini. Bien sûr que le péché à cette époque-là était ôté, était couvert dans la Nouvelle Alliance par le sang de Jésus. Le péché maintenant est ôté, beaucoup plus fort. Le bouc emportera, dira le Lévitique 16, le bouc emportera sur lui leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Et nous devons comprendre que Jésus ne fut pas seulement identifié à notre iniquité, mais il supporta encore toutes les conséquences néfastes de ces iniquités. Il les emporta avec lui pour qu'elles ne puissent plus revenir sur nous. Ça, c'est ce qui s'est passé à la croix. Le mal à la croix qui nous était dû, ce mal vint sur Jésus, en sorte qu'en échange, le bien qui lui était dû à lui pour son comportement nous soit donné à nous gratuitement. Le mal qui nous était dû vint sur Jésus, de sorte qu'en échange, le bien incombant à Jésus puisse nous être offert, tout en permettant à Dieu de rester juste. Jésus prend les conséquences de nos désobéissances sur lui et nous offre de prendre les conséquences de son obéissance à lui. Il prend les conséquences de nos désobéissances et il offre à notre foi de prendre les conséquences de son obéissance à lui. Lui prend la malédiction, nous pouvons recevoir la bénédiction à cause de son obéissance. C'est cela, la grâce de Dieu, le mal tomba sur Jésus, afin que le bien correspondant puisse nous être offert. Et je voudrais maintenant aller dans le caractère même de Dieu, de la Trinité. Quand vous regardez dans la Bible, Dieu est un Dieu de guérison. Je suis l'Éternel qui pardonne et qui guérit toutes tes maladies. C'est la nature de Dieu, il est guérisseur. Vous retrouvez cela dans la personne de Jésus. Lui, par les meurtrissures, duquel vous avez été guéri, le Fils de Dieu est guérisseur, la parole est une parole de guérison, il a envoyé sa parole et il est guéri, et l'évangile, bonne nouvelle, est un évangile de guérison. Donc, extrêmement important, pendant que je parle, sans que vous en rendiez compte, j'essaye de construire tranquillement en vous, à un moment donné, une telle assurance pour que tout à l'heure vous puissiez simplement saisir quelque chose. Si vous avez vos Bibles, dans Ésaïe 53, il y a au verset 4 et au verset 5. Si vous avez Ésaïe 53, on va le lire ensemble à haute voix, les versets 4 et les versets 5. Ésaïe 53, tout le monde sait que c'est après 52, verset 4. Donc, verset 4... On y va, vous avez vos Bibles là, faites voir un peu si vous avez vos Bibles là. Levez un peu la main, qu'on vérifie. Alors, ceux qui sont sans Bible, vous avez compris, vous avez oublié votre pistolet. Alors, Ésaïe 53. On y va à haute voix, verset Ésaïe. Cependant, on y va? Allez. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il y a là deux vérités encore. Je continue à construire tranquillement deux vérités qu'il est important de souligner. Il y a d'abord une application dans ces versets, une application spirituelle. Une application spirituelle, Jésus reçoit la punition de nos iniquités pour que nous puissions être pardonnés et entrer et avoir la paix avec Dieu. Il reçoit la punition pour que moi je puisse être pardonné et avoir la paix avec Dieu. Ça c'est sur le plan spirituel. Mais il y a également sur le plan physique, sur le plan matériel, il y a une adaptation, une application. Jésus porta nos maladies, en hébreu c'est très clair, porta nos maladies et nos douleurs pour que nous puissions être guéris par ses blessures. Cela est confirmé, vous le trouvez très clairement confirmé dans Matthieu 8, 17. Il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Alors j'appuie maintenant. Jésus fut puni afin que tu puisses être pardonné. Jésus fut blessé afin que tu puisses être guéri. Je répète, Jésus fut puni afin que tu puisses être pardonné. Jésus fut blessé afin que tu puisses être guéri. Jésus, à la croix, fut fait péché de ton péché pour que toi, tu puisses devenir juste de sa justice. Je répète, Jésus, à la croix, fut fait péché. C'est le dard qui est rentré dedans. Jésus, à la croix, fut fait péché de ton péché, de tes péchés, pour que toi, tu puisses devenir juste de sa justice à lui. Je continue. À la croix, Jésus mourut de ta mort, conséquence du péché, pour que toi, tu puisses avoir part à sa vie, conséquence de son obéissance. À la croix, dans 2 Corinthiens 8, il y a encore autre chose. Car vous connaissez, dira l'apôtre Paul, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. À la croix, et là il faut aussi comprendre quelque chose, à la croix, Jésus devint pauvre de notre pauvreté afin que nous puissions devenir riches de sa richesse. Mais regardez un petit peu Jésus. Vous savez, on a dit pas beaucoup de choses. Mais si vous regardez la vie de Jésus pendant son ministère humain, Jésus n'a pas été pauvre. Regardez ça en face. Il avait besoin de manger, il multipliait les pains. Il avait besoin d'un âne pour rentrer à Jérusalem, il envoyait ses disciples. Il avait besoin d'un drachme pour payer le péage du temple. Il envoie Pierre jeter l'hameçon. Vous ne trouverez jamais Jésus coincé à un moment donné de sa vie. Libre, détaché des choses de la terre. Usant sans être possédé. Détaché, il dira, cherchez les choses d'en haut. Vendez en aumône. Ne vous chargez pas des choses matérielles. Mais il n'a jamais manqué. Jésus n'est jamais mort de faim. Toujours au bon moment, au bon endroit, il y a eu la méthode de Dieu, il y a eu la parole de connaissance nécessaire. Par exemple, le soir où il doit préparer la Pâque, eh bien, c'est très simple. Eh bien, au lieu d'organiser une réunion de jeûne et de prière pour avoir une révélation, pour savoir trouver le repas de Pâque, parole de connaissance, il envoie ses disciples, vous trouverez un homme portant un vase d'eau, un jar d'eau, etc. Vous le suivrez, vous rentrerez, vous demanderez au maître de la maison, où est-ce que nous allons préparer la Pâque? En un mot, Jésus n'a jamais été démuni ou privé de cours dans n'importe quelle situation de sa vie pendant qu'il était sur la terre et pendant son ministère. Il était aidé par des gens qui le suivaient. Quand il était humainement coincé, bien, il y avait le surnaturel qui l'aidait. Il ne dirigeait pas sa vie de sa propre volonté. Il ne changeait pas la pierre en pain quand le diable lui demandait. Il était dépendant de Dieu. Mais il a toujours eu, en toutes circonstances, en tout lieu, il a toujours eu ce qu'il lui fallait au bon moment. Ça, la vraie richesse. La vraie richesse, c'est pas d'avoir un compte en banque. La vraie richesse, c'est d'avoir ce dont je dois avoir besoin chaque jour de ma vie. C'est ce que dit Paul, si j'ai le vêtement et la nourriture, libre, il était libre. Mais à la croix, ça change. À la croix, ça change. À la croix, il va être pauvre comme Job. À la croix, il n'a plus rien. À la croix, il a faim, il a soif, la nudité, on lui enlève même ses vêtements, on les tire au sort, la disette en toutes choses, plus de robe, plus de sépulture, même plus le droit de faire des miracles, la puissance de Dieu lui ôter, où il y renonce volontairement, nu comme un ver, pauvre, dans tous les domaines de sa vie, abandonné par ses amis, abandonné par ses disciples, trahi, rejeté par son père. C'est le cri, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pauvre, là, il touche, il boit le fond de la pauvreté dans tous les domaines de sa personnalité. Et mon Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour tout bonheur. Je répète, et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour tout bonheur. Ça, c'est le résultat de la pauvreté à la croix. À la croix, il devint pauvre pour te libérer de la malédiction de la pauvreté. Mais à la croix aussi, Jésus a porté les conséquences émotionnelles. La honte, tellement de gens qui ont rejeté, piétiné. La honte par l'avilissement divers. Le rejet tellement répandu aujourd'hui. La Bible nous dit dans Hébreux 12, 2 que Jésus a méprisé l'ignominie en acceptant la forme honteuse de la mort à la croix. Il faut quand même vous dire quelque chose. On est tellement habitué à lire pour les enfants de l'école du dimanche. Oui, Jésus est mort. On lui fait un beau petit tableau à la croix. Un beau petit crucifié, souvent efféminé, qui n'a rien à voir avec le Jésus de la Bible. Hein? On a déformé l'incroyable puissance de la souffrance de la croix en la rendant agréable. Eh bien, il faut savoir que c'était quelque chose d'horrible. Les excréments, les crachats, la sueur, un être de sang, de la tête aux pieds, qui urinait. Il n'y avait pas de WC, il n'y avait pas de toilette, il n'y avait rien, il n'y avait pas de fléchage pour les toilettes. C'était une horreur. Les mouches, meurtries, exposées en spectacle à tout le monde. La Bible nous dit « semblable à celui dont on détourne le visage ». Tellement c'était horrible. La honte. La honte. Il a connu une honte incroyable. Pourquoi cela? Eh bien, l'ignominie de Jésus ouvre à la croix. Jésus a méprisé cette honte en acceptant cette forme honteuse, parce que l'ignominie de Jésus à la croix ouvre le chemin de la guérison de notre propre honte. Le rejet de Jésus par son Père dans sa relation filiale a causé le brisement de son cœur dont il est mort, et ce rejet produit notre acceptation. Jésus porta notre honte, porta ta honte, ma honte, afin que toi tu puisses et que je puisse partager sa gloire. Jésus souffrit ton rejet, tous les rejets que tu as pu vivre jusqu'à ce jour, depuis ton enfance. Dans certains moments d'entretien, vous avez, l'autre jour, j'ai quelqu'un qui est venu, mais depuis tout gosse à la maison, c'était une balayure que ce gamin-là. Un père alcoolique, une mère prostituée. Et le gamin, il a grandi là-dedans. Un enfant de colère, un vase de colère, de honte, de mépris, de rejet, de destruction de la personnalité. Eh bien, Jésus porta notre honte afin que nous puissions partager sa gloire. Jésus souffrit notre rejet afin que nous puissions avoir part à son acceptation en tant qu'enfant de Dieu. Le mal vint sur Jésus en sorte que le bien t'est offert aujourd'hui, gratuitement. Et puis en plus de ça, à la croix, Jésus triomphe de Satan, des démons, en acceptant comme Job d'aller jusqu'au bout. Et qu'est-ce que c'était cela, comme Job d'aller jusqu'au bout? C'est-à-dire de démontrer au monde invisible, de démontrer à son père, de démontrer à ses disciples, de démontrer à cette populace, de démontrer à toutes les générations de tous les siècles à venir, qu'il avait accepté de servir son Dieu, non pas pour le bien qu'il recevait, non pas pour la protection qu'il recevait, non pas pour la bénédiction et la présence que son père lui donnait, mais il démontrait, par ce rejet à la croix, qu'il donnait sa vie par amour, et non pas pour recevoir quelque chose. En un mot, comme Job, il est allé jusqu'au bout pour montrer qu'il servait Dieu, non pas pour ce que Dieu lui donnait, mais qu'il servait Dieu pour ce que Dieu était, c'est-à-dire son Père. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais vous poser une question. Vous servez Dieu parce qu'il vous bénit? C'est facile, n'importe qui peut faire comme ça. Vous servez Dieu parce que vous espérez reconnaître, mais vous êtes un mercenaire. Vous servez Dieu parce que vous espérez qu'il va vous donner une bonne profession, parce qu'il va vous donner, mais vous êtes un mercenaire encore. Vous le servez parce qu'il vous paye. Il n'y a rien de glorieux là. Vous êtes quelqu'un qui achète, c'est quelqu'un qui a la mentalité que vous pensez que Dieu va acheter votre amour. Pas vrai ça? Et ça explique pourquoi vous et moi, nous avons des luttes parfois. Parce que Dieu ne va jamais acheter votre amour. Il n'y a pas de manipulation en Dieu. Dieu n'attend pas que vous l'aimiez parce qu'il vous donne quelque chose, mais il faut que vous l'aimiez pour ce qu'il est, lui, et non pas ce qu'il vous donne d'abord. Et malheureusement, dès que ça ne va pas, on lève le poing, on fiche le camp, on lâche, il n'y a pas d'amour, Dieu ne m'aime pas, on n'a rien compris. On n'a rien compris. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il est devenu malédiction pour que nous puissions recevoir la bénédiction et être délivrés de toute la puissance des ténèbres. La libération est pour nous maintenant pour recevoir toutes les bénédictions d'Abraham, salut, bien-être, faveur de Dieu, prospérité qui n'est pas la convoitise de la chair, ni l'amour du monde, ni l'orgueil de la vie, mais la santé, le fruit de la bénédiction de Dieu en toutes choses. Non pas pour devenir esclave de la bénédiction. La bénédiction ou les bénédictions ne doivent pas devenir notre maître, mais au contraire, mais la bénédiction pour pouvoir servir davantage et Dieu et notre prochain. Vous savez, si vous pensez que Dieu doit vous bénir, va vous bénir pour que vous réussissiez votre vie, vous n'avez rien compris, vous êtes quelqu'un qui a la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, dit la Bible. Mais si vous savez que Dieu, en Jésus-Christ, veut vous bénir pour que vous puissiez être plus efficace dans le service de Dieu, pour que vous puissiez manquer de rien, non pas pour être un vrai paresseux ou un assisté, mais Dieu pourvoira à tous vos besoins, pour que tous vos besoins servent à sa gloire et pour l'avancement de son règne. Là, vous êtes dans le bon coup. Malheureusement, je ne dis pas chez vous, mais ailleurs, le peuple de Dieu est devenu un peuple d'assistés. C'est très simple. On n'aime plus se sacrifier, on n'y arrive même plus, on ne peut plus, c'est beaucoup trop dur, on se crée une théologie d'arbre de rose, mais finalement, on a l'apparence de la piété, on n'a plus du tout la force. Alors, j'aimerais dire ceci pour terminer là sur ce terrain-là. La malédiction d'Adam par la transformation finale de notre corps et le rétablissement de toutes choses est donc pour plus tard. Je vous souhaite d'être centenaire, mais si Jésus ne revient pas, vous allez mourir. Pas que ça, c'est seulement... Alors, seul... C'est là que nous devons le comprendre. Seul le Saint-Esprit peut nous diriger dans l'appropriation successive de ces différentes bénédictions. Le Saint-Esprit sait mieux que nous par quel domaine commencer
Et peut-être, avant de nous toucher dans la guérison physique, s'occupera-t-il d'abord de notre guérison émotionnelle? Ou peut-être nous convaincra-t-il de tel ou tel péché quelque part? Peut-être, avant de toucher tel terrain, il va toucher tel autre. Peut-être, avant de me donner cela, il va exiger cela. Il n'y a pas de règles strictes, nous avons chacun un passé différent, nous avons chacun un héritage différent. Et comme les Hébreux étaient conduits par la nuée dans le désert, jour après jour, et bien de la même façon, la marche du chrétien est une marche où certains vont recevoir telle chose immédiatement, tandis que pour d'autres, c'est progressif. Certains sont libérés de la cigarette instantanément, pour d'autres, ils ont à se bagarrer et à exercer leur foi. Il y a là une marche individuelle et communautaire dans l'approbation générale, mais dans la direction, l'aide et la souveraineté du Saint-Esprit qui nous fera arriver au bout. Nous devons suivre le Saint-Esprit pour l'appropriation de toutes ces bénédictions successives, parfois quelques-unes ensemble. C'est pour cela aussi qu'il nous a été donné pour marcher dans la réalisation pleine et entière de tout ce qui a été accompli à la croix. Donc, vous et moi, nous avons besoin du Saint-Esprit. Quand Jésus est parti, le Saint-Esprit est venu prendre sa place. Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Hier soir, j'en ai parlé rapidement. Il était avantageux qu'il m'en aille, parce que sinon, le royaume de Dieu aurait été limité. Mais justement, par l'action de l'Esprit de Dieu en nous, par la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte, eh bien, il y a cet élargissement, chacune ici peut compter sur l'aide du Saint-Esprit pour nous aider à nous approprier par la révélation et par l'exercice de notre foi, prendre ce que Jésus a déjà accompli une fois pour toutes il y a 2000 ans. Alors, arrive un petit peu la fin de cette première partie. Est-ce que vous réalisez que vous avez des blocages peut-être quelque part? Vous savez, faire des impositions des mains, on en fait tellement, c'est pas ça qui vous rendra plus riche. L'imposition des mains n'a de la valeur que dans la mesure où ça correspond à quelque chose. La prière de guérison a de la valeur si elle correspond à la vie de l'esprit qui est correspondant. Et si dans ma vie, il y a quelque chose que je dois d'abord mettre en ordre, il faut d'abord commencer par là. Je peux pleurer, gesticuler, faire l'enfant gâté, ça ne bougera pas. D'ailleurs, vous savez, moi je tourne, vous pouvez voir les gens, ils vont d'imposition des mains en imposition des mains, de convention en convention, de prédicateur en prédicateur, d'expérience. Et ils ne changent pas, les gars. Change pas. Chante bien comme la cigale, mais l'hiver quand il fait froid, là, faut voir. Et je voudrais vraiment dire que nous devons réellement saisir le problème à bras-le-corps. Et je voudrais vraiment vous aider à devenir des adultes. Peut-être l'êtes-vous déjà, alors alléluia. Mais ce qui est important, c'est que vous touchez Jésus. Cette femme atteinte du Père de sang, touchez. C'est elle qui a fait le boulot. Alors, discernez-vous des blocages, peut-être, de malédictions, dans un domaine de votre vie, soit à cause de vous-même, soit par les générations familiales précédentes, soit par des paroles inconsidérées, que vous avez peut-être oublié, que pendant que j'ai parlé, sont en train de revenir dans votre mémoire, soit paroles inconsidérées, ou celles d'autres personnes qui avaient autorité sur vous et qui maintenant vous bloquent, soit par des actes d'occultisme, du légalisme, l'antisémitisme, le manque de respect aux parents, etc., des actions sexuelles contre la loi, la haine, la violence, la pauvreté anormale, tenace, maladie chronique, héréditaire, etc., 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 etc. Ce matin, cet après-midi, je vous plaquais, est-ce que vous êtes libre? Et si vous n'êtes pas libre, pourquoi n'êtes-vous pas libre? Est-ce que au fond de vous, je ne dis pas qu'on a la réponse toujours à tout de suite, mais je pose la question, est-ce que vous avez réglé là où vous savez qu'il y a quelque chose à mettre à la lumière? Vous ne pouvez pas contourner les exigences de Dieu. Vous ne pouvez pas boucher vos oreilles, vous ne pouvez pas fermer les yeux. À un moment donné, c'est l'heure de la vérité. Et pour que Dieu puisse vous toucher, il faut que la vérité soit au fond de votre cœur. Alors je vous propose de vous libérer, si c'est nécessaire, avant d'aller plus loin. Confessez votre foi en Christ, son sacrifice, comme nous venons de dire. Repentez-vous, peut-être, de votre rébellion, de vos péchés ou de votre péché. Ne projetez pas toujours la cause sur les autres. C'est toujours les autres. Si c'est pas les autres, c'est l'hérédité, c'est le passé, c'est mes parents, c'est mes arrière-parents, c'est la généalogie familiale, peut-être, mais toi aussi, tu es responsable quelque part. Nous devons avoir le courage de regarder les choses en face. Revendiquer le pardon de tous vos péchés. Pardonner à toute personne qui vous a blessé ou fait du tort. Puis-je me permettre de vous dire que c'est incroyable le nombre d'amertumes, de rancunes, de chiens de la chaîne. Je pardonne, mais j'oublie pas. Des trucs qui détruisent les églises, les calomnies, les bavardages, les médisances, les critiques faciles. Destructeur.
Renoncer à tout contact avec ce qui est occulte, satanique, fétiche, amulette, objet, etc. Je pense que je n'ai pas besoin d'insister. À la croix, Jésus nous a délivrés de tous les démons. Si vous êtes prêt, si sur ce terrain-là, vous avez mis de l'ordre dans votre vie, alors il y a possibilité de la délivrance, de toute malédiction, en sachant que c'est votre foi qui compte et non pas la technique de la prière. Je peux dire ça ? Dernière leçon. Et technique de louange, technique de jeûne, technique de prière, technique d'intercession, c'est incroyable. On a transformé notre Dieu, on l'a transformé en un ordinateur. Savez-vous que le grand problème qui se trouve maintenant dans le peuple de Dieu, c'est qu'on a plus confiance aux techniques qu'à Dieu lui-même. Tu fais ça, tu vivras, non. Tu viens à Dieu, c'est lui qui te fait vivre. C'est ta foi dans sa grâce. Et sa foi et ma relation avec lui va alors par l'Esprit de Dieu me conduire dans la technique. Mais ce n'est pas la technique qui me bénit, c'est mon Dieu qui me bénit par son cheminement à lui.
Chers amis, faut qu'on se dégage de là. Faut qu'on se dégage de là. Alors, parce que même la meilleure des techniques peut devenir la plus belle des idoles. Le serpent d'airain de Moïse, qui a été le moyen de la guérison, est devenu le moyen d'une idolâtrie incroyable.
Je vais dire quelque chose. Je crois personnellement que la musique est devenue une drogue pour les jeunes chrétiens. Je m'en vais demain matin. Vous savez, c'est pas moi seul qui le dit. Un gars comme David Wilkerson, il dit on loue un Jésus qu'on ne prie plus. C'est clair. Les responsables ne prient plus. Les chrétiens ne prient plus. Mais tout le monde est qu'à cette musique, allez, écoute la musique. Pas du tout contre la louange. On a eu un bon moment de louange, attention. Ne méprenez pas. Que je veux dire, faut la louange, adoration, tout à fait clair. Mais si ta louange et ta musique a pris le temps et la place de ta prière, mon ami, tu es en train de te court-circuiter à fond. Tu peux lever les mains, tu peux chanter, tu n'es plus en communion avec Jésus.
Je vais t'expliquer quelque chose. Et tu ne seras plus transformé. La seule façon d'être transformé dans ma nature profonde, c'est par la vision de Jésus. C'est en le voyant lui, en le regardant lui, dans l'illumination intérieure du Saint-Esprit, que je suis transformé à son image. Alors si ma relation avec lui, dans l'illumination intérieure, me conduit dans la louange, ou que la louange m'introduit dans ces choses, alléluia. Mais si la louange, ou la musique, ou même autre chose, remplace ça, je vais vivre l'atmosphère d'une réunion, je vais vivre l'atmosphère d'un bon embarquement, mais dans 6 mois, on me ramassera à la cuillère, je ne serai pas changé. Et c'est le principe du mouvement des hippies, le mouvement de Jesus People. Vous savez, ils ont vécu des choses extraordinaires, libérés de la drogue, des guérisons, des trucs formidables. Ils sont pratiquement, il n'y en a que 35 à 40% qui ont été sauvés, le reste sont tous repartis dans la nature. Pourquoi ? Il leur manquait l'illumination intérieure de la révélation de la personne de Jésus. Elle seule te change. Et nous devons également comprendre que si la louange a sa place, La musique a sa place, la prière, le temps devant Dieu est irremplaçable pour grandir dans la stature de Christ, parce que seuls des temps de prière profonds avec Dieu me changent à l'image de Jésus. On peut avoir des visitations par la louange, mais la visitation ne veut pas forcément dire transformation. Moi, j'ai vu des prédicateurs faire des miracles, être dans le péché depuis des semaines. L'onction que tu peux avoir, surnaturelle, ne veut pas dire que ta vie est en ordre. J'ai vu des gars remplir les stades, ils étaient homosexuels. Vous devez vous réveiller. Il y en a qui ont fait des statistiques, ils ont dit, vous savez, en Amérique, ça c'est les Américains, savez-vous combien de temps les pasteurs prient en Amérique? 10 minutes par jour. Pour vous poser la question, dans votre culte personnel, vous prenez combien de temps? Vous n'avez pas le temps? Ah bon? Vous mettez dans la voiture, paf! Vous mettez la cassette, oui ou non? Hein? Vous réveillez le matin, la cassette? Nous, encore un avantage énorme, on a la radio chrétienne, chez vous. Hein? Matin, soir, je suis celui qui peut-être l'écoute le moins. On ne supporte plus le silence. Alors que la voix profonde de Dieu parfois ne se fait plus entendre que dans le silence. On ne sait plus ce que c'est que le silence. On a remplacé, excusez-moi, mais on a remplacé les émotions en croyant que quand nous avons du bien émotionnel, nous croyons que c'est Dieu, c'est pas vrai. Il y a l'onction, de l'acteur. Il y a l'onction du musicien. Il y a l'onction du chanteur. Ça n'a rien à voir avec le surnaturel. C'est simplement un magnétisme qui rayonne de vous et de moi selon le charisme que j'ai. Et je voudrais ce soir vous dire qu'il faut aller plus loin que ça. Je ne dis pas que maintenant il faut supprimer les musiciens, c'est pas ce que je veux dire. Hein. Je vais avoir des ennuis avec eux. Là. Non, pas ça du tout. Pas ça du tout. Pas ça du tout. Il faut aller plus loin. La musique, la cassette musicale, le chant ne remplace pas un temps devant Dieu personnel dans la prière et avec la Bible. Et je vais dire encore une chose. Quel est le problème important aujourd'hui? C'est que les gens n'ont plus de culte personnel. On pioche l'onction du tel prédicateur, on pioche dans telle cassette d'enseignement, on pioche dans tel rassemblement. On est un petit peu comme David, comme Saül, qui pompait l'onction qui était sur David quand il en avait besoin. Mais est-ce que Dieu ne veut pas faire de toi un pompeur? Il veut faire de toi un accrocheur, un communicateur. Non pas toujours recevoir, Seigneur, donne, 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 mais apprends à donner. Comment veux-tu donner si tu n'as rien? Et pour pouvoir donner, il faut que tu t'accroches maintenant au Seigneur lui-même. Chers amis, c'est important. C'est important. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et c'est simple, vous savez, toi, dans mon église, je tourne à droite, je tourne à gauche, on le voit dans les entretiens, on le voit partout, les gens n'ont plus la force, n'ont plus le temps, puis-je me dire encore, ils n'ont même plus envie de prendre du temps devant Dieu. Il y a tellement de chemins de raccourcis. Prends un tel prédicateur enflammé, telle cassette d'enseignement ointe, telle convention, telle vidéo, formidable, va des miracles, ça me fait du bien, ça me fait du bien. Mais je vais vous dire quelque chose. Vous pouvez voir la plus belle des vidéos, de la plus grande campagne internationale que vous voulez. Vous pouvez voir des miracles, des prodiges, des guérisons. Dieu peut à un moment donné vous communiquer quelque chose au travers de ça, mais il ne le fera jamais comme une règle. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce que vous allez voir qui a lieu à des milliers de kilomètres d'ici, qui va vous fortifier en profondeur, c'est ce que vous allez vivre d'abord dans votre chambre, qui va avoir des conséquences dans l'éternité tout entière. La vraie force, c'est pas celle que tu vois chez un autre, c'est celle que tu acquiers au pied de Jésus, dans ta chambre. C'est celle-là qui te permettra de tenir le coup plus tard, parce que plus tard, le prédicateur enflammé sera plus là. Nous devons construire notre force personnelle dans le secret de notre chambre. Chers amis, je voudrais Insister là-dessus, c'est le grand problème numéro un du peuple de Dieu aujourd'hui. On n'a plus le temps, on n'a plus la force, on n'a plus l'état d'âme, on n'a plus la persistance, le sens de l'effort et le sens du sacrifice pour se permettre ça. Alors on court. Prendre l'onction ici. Une visitation là. Mais vous remarquerez, dans les plus grandes visitations, au bout de 15 jours, il n'y a plus rien. Regardez-le, vous pouvez aller voir la plus grande des conventions, dans 15 jours, vous n'avez plus rien. Pourquoi? Parce que Dieu veut vous apprendre que ce n'est pas en dépendant de tel ou tel endroit ou de tel ou tel prédicateur que vous devez diriger votre vie, mais que vous devez dépendre du Seigneur lui-même qui a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». En un mot, il vaut mieux aller au bon Dieu qu'à ses saints. C'est important. Vous savez, si vous posez la question, combien d'entre vous, chaque jour, font une étude biblique, commentaire, suivi, jour après jour, ont une connaissance générale de l'ensemble de la théologie biblique? Pas seulement piocher ici, telle promesse de bénédiction, telle promesse matérielle, tel truc, le garde-manger à la carte. Non, mais une connaissance biblique. Parce qu'il y aura des moments où ce sera dur chez vous. Il y aura des moments où vous verrez que le ciel ne sera pas ouvert. Il y a des moments où vous prierez, vous n'entendrez rien. Il y a des moments où vous demanderez, vous ne recevrez rien. Il y a des moments où vous verrez les autres bénis, vous verrez, vous serez à sec. Et alors qu'est-ce que vous ferez? Décourager, pleurer, lamenter, donner l'aspect d'un contre-témoignage manifeste? Mais si vous avez été formé dans l'ombre, dans l'étude persistante, permanente, persévérante, la parole de Dieu, des Écritures, jour après jour, à l'heure de Dieu, au temps de la moisson ou au temps de l'heure des fruits, alors vous porterez votre fruit en sa saison. Alors, on arrive maintenant à... Je voudrais prier un court instant, avant d'aller maintenant devenir très très pratique. Je voudrais que nous inclinions la tête un instant maintenant.
Radio Certitude.
Nous venons d'écouter un partage du pasteur Pierre Truchel sur la guérison divine.